Bonjour frères et sœurs, nous espérons que tout le monde se porte bien. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là en effet que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Oui, bien-aimés, nous sommes au huitième jour de notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Nous avions déjà parlé de quatre fêtes, c'est-à-dire la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et la fois passée, nous avons parlé de la fête de Pentecôte ou encore la fête des semaines. Aujourd'hui, nous allons avancer avec la fête des trompettes. Nous avions déjà expliqué que les trois premières fêtes se tenaient au premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. C'était le quatrième mois en Égypte, lorsque Dieu visita le peuple d'Israël. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et nous avons expliqué que si le quatrième mois était le premier mois chez les enfants d'Israël, c'était pour marquer un nouveau commencement. Et nous avons expliqué que la Pâque représente, bien aimé, la nouvelle naissance, le nouveau commencement. Voilà pourquoi. Juste après la Pâque, c'est la fête des pains sans levain qui marque, bien aimé, la vie de sanctification après le baptême. Et ensuite, la fête de prémices qui représente Christ, qui est notre prémice et qui révélait aussi, bien aimé dans le Seigneur, la moisson, la petite moisson. Et la fois passée parlant de la Pentecôte, nous avons expliqué que la Pentecôte représentait la grande moisson. La grande moisson, donc le temps où vraiment on doit moissonner les âmes pour le Seigneur pour les préparer à l'enlèvement. Alors aujourd'hui, parlons de la fête des trompettes. Vous allez voir ici que parmi les significations spirituelles ou prophétiques, il y aura aussi bien aimé l'enlèvement de l'Église. Alors rapidement, nous allons lire dans Lévitique chapitre 23, notre verset de base, du premier verset au deuxième verset. Et nous lirons du verset 23 au verset 25. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. J'avais dit, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner le mot mes fêtes, pour savoir que ce ne sont pas les fêtes des hommes, mais les fêtes de l'Éternel. Ensuite, versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et dit, Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Oh bien-aimé, j'aime ça. Nous avions déjà dit que ces fêtes étaient des fêtes religieuses qu'on célébrait en Israël, parce que Israël, chaque année, devait observer principalement sept fêtes religieuses. Et comme je venais de le dire, les trois premières fêtes se passaient le premier mois. Et la quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte ou encore la fête des semaines, c'était 50 jours après la Pâque. Maintenant, les trois dernières fêtes se passaient au septième mois. Donc nous sommes en train de parler des trois dernières fêtes, ou encore de la fête de Pentecôte, de trompette, qui a lieu le septième mois. Alors qu'est-ce que cela représente pour nous? Donc nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi sonner la trompette? Qui peut faire sonner la trompette? C'est très important. Et quelle est la signification prophétique de cette fête ou encore le fait de faire sonner la trompette? Parce que bien aimé, lorsqu'on lisant les Écritures, il y a beaucoup de versets qui nous montrent que les enfants d'Israël avaient sonné la trompette pour annoncer un certain nombre d'événements. Alors pour nous, qu'est-ce que cela représente? Avant d'avancer, j'aimerais quand même signifier que Ces fêtes avaient principalement trois buts, hein, les fêtes de l'Éternel. Ces fêtes avaient pour but, premièrement, de commémorer bien-aimés et honorer les événements spéciaux qui ont eu lieu dans l'histoire juive, donc l'histoire du peuple de Dieu. Ils devaient commémorer bien-aimés ces événements pour se rappeler de ce que Dieu avait fait avec eux et pour annoncer ou enseigner aussi à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, ce que Dieu avait fait avec eux pour produire la foi et conduire ses enfants à être attachés à leur Dieu. Deuxièmement, ces fêtes démontraient la nature prophétique de ce que Dieu avait prévu qui devait s'accomplir en Christ. Parce que Christ, la Bible dit, toutes ces choses sont l'ombre des choses à venir. Donc, toutes ces choses sont l'ombre et la réalité est en Christ. Troisièmement plutôt, ces fêtes avaient pour but d'annoncer les événements prophétiques qui allaient arriver dans la suite. Donc, au-delà des célébrations, bien-aimés, ces fêtes sont des enseignements qui nous préparent aux choses que nous allons croiser dans le futur. Parce que notre Dieu est celui qui annonce la fin avant le commencement. Donc, ce ne sont pas des simples célébrations. Et nous avons dit la fois passée. Maudit soit, la Bible dit, maudit soit quiconque veut marcher ou vivre selon la loi. Parce que selon la loi, on ne peut pas prendre une chose et laisser d'autres de côté. Mais nous constatons dans cette génération, et pourtant en Israël, il y avait sept fêtes, il y a des gens qui ont choisi des fêtes. Ils vont célébrer la Pâque, ils vont célébrer la Pentecôte, mais ils ont laissé d'autres fêtes. Non, frère, si nous voulons célébrer la Pâque, célébrer la Pentecôte, nous devons aussi célébrer la fête des pains sans levain, célébrer la fête des expiations, célébrer la fête des trompettes et célébrer la fête des tabernacles. On ne peut pas prendre d'autres et laisser d'autres. On ne peut pas trouver, bien aimé, des explications spirituelles pour d'autres et penser que d'autres, on peut les accomplir charnellement. Mais toutes ces fêtes, bien aimées, c'était, bien aimé, des enseignements qui nous annonçaient des choses à venir. Alors, pourquoi faire sonner de la trompette? La Bible dit ici que c'était le septième mois et le premier jour du septième mois. Vous savez que c'est vrai que c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a le chiffre 7, nous voyons bien aimé la présence de Dieu, parce que 7 représente bien aimé l'éternité. Et lorsqu'on voit le chiffre 7, bien aimé, Dieu bien aimé rentre en action dans quelque chose. Nous voyons par exemple que Élie avait demandé à son serviteur d'aller voir du côté de la mer à 7 reprises. Et c'est la septième fois qu'il a vu. Il y avait la pomme, il y avait la pluie, hein, il y avait un nuage qui ressemblait à la paume d'une main, qui stupéfiait, qui représentait bien aimé la pluie qui était sur le point de tomber. Cela préfigurait bien aimé la descente du Saint-Esprit, parce que quand l'Esprit est descendu, dans Actes chapitre 2, c'était là la descente bien aimé des cinq ministères. Hein, les cinq ministères de la parole. Donc, il représente la main de Dieu qui vient maintenant pour bénir son peuple. Nous voyons la même chose dans Apocalypse, lorsque l'ange parla, lorsque Jean a entendu une voix, la Bible dit qu'il se retourna, il a vu au milieu des sept chandeliers, il y avait un homme qui avait le visage d'un fils de Dieu. En fait, il avait vu le visage de Jésus. Et nous voyons la même chose lorsque Meshach, Shadrach et Abednego devaient être sauvés du feu, de la fournaise ardente, pour que le quatrième homme apparaisse bien-aimé dans le feu, il a fallu qu'on chauffe le feu 7 fois. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, le sixième qui est à la maison n'est pas ton mari. Par conséquent, moi qui suis le septième, si je rentre dans ta vie, c'est alors que tu auras le repos. Donc lorsque nous voyons 7, bien-aimé, cela marque le repos, cela marque, bien-aimé, l'éternité, la présence de Dieu. L'infini de Dieu, lorsque Dieu se révèle lui-même, lorsque Dieu rentre en action. Donc, bien aimé, la septième fête ici, parce que je disais, les quatre premières fêtes représentaient des choses que nous devons faire, des choses que nous devons faire et ce que nous devons être, mais à partir de la septième fête, bien aimé, ici nous commençons maintenant à entrer, bien aimé, dans les choses célestes, à entrer, bien aimé, dans les choses qui nous emmènent à rencontrer Dieu. Alors pourquoi on devait faire sonner de la trompette? Premièrement, nous lisons dans Nombre chapitre 10, où les trompettes furent sonnées, ou encore lorsque Dieu dit à Moïse de faire deux trompettes d'argent. Nombre chapitre 10. La Bible dit, l'Éternel parle à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, et je prendrai du verset 6 au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent, et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. 6 à 7. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour la convocation de l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse de fabriquer deux trompettes d'argent. Et il dit que ces deux trompettes servaient spécifiquement pour deux choses. La première des choses, ces trompettes, la première trompette servait pour le rassemblement des enfants d'Israël dans le camp. Et lorsqu'on devait sonner de la trompette, la Bible dit, ils devaient se rassembler, se réunir auprès de Moïse. Ah, bien-aimé, lorsqu'on dit auprès de toi, Moïse, dans la tente d'assignation, nous comprenons ici que ce n'est plus Moïse physique, mais c'est celui qui, bien-aimé, devait venir, comme Moïse avait dit, Yo, Dieu vous donnera un prophète comme moi, mais vous l'écouterez. Il parlait là de Jésus-Christ. Il dit ce prophète-là qui rentre dans la présence de Dieu, qui parle avec Dieu face à face, comme un ami. Il dit, vous rassemblerez, le peuple se rassemblera autour de toi dans la tente d'assignation. Donc la première trompette a pour but, bien-aimé, de nous rassembler autour de Christ, dans le corps de Christ. C'est un peu comme la trompette, bien-aimé, que Noé faisait retentir. Noé aussi avait deux trompettes. La première trompette servait, bien-aimé, à faire entrer les gens dans l'arche. Et il n'y avait pas plusieurs arches, il n'y avait qu'une seule arche. Voilà pourquoi. Je viens te décourager, toi qui aimes toujours te positionner par rapport aux dénominations, qui a l'esprit sectaire. Tu te positionnes par rapport aux dénominations. Alors, notre église, notre pasteur, notre ceci, bien-aimé. Dans l'arche de Noé, il n'y avait qu'une seule arche, il n'y avait que le corps de Christ. Jésus ne connaît pas les histoires des églises. C'est pas réveil, réveillé, dormi, allongé, je ne sais pas, catholique, pentecôtiste, baptiste. Jésus ne connaît pas toutes ces choses. Église des maisons, église de la mer, église de sel, de l'huile, bien-aimée, église de bâtiments. Dieu ne connaît pas toutes ces choses. Mais Jésus connaît son corps. Et la trompette qui est sonnée devait rassembler les gens autour du corps de Jésus. Donc lorsqu'on sonne de cette trompette, lorsqu'on sonne de la trompette, on doit conduire les gens à rentrer dans le corps. On a fait cette erreur des années passées, lorsqu'on gagnait les âmes pour l'église. On ne gagne pas les âmes pour l'église, pour remplir les bancs ou encore remplir votre église. On gagne les âmes pour Christ. Et si on a gagné une âme pour Christ, la personne est libre de changer même d'église, mais tout en sachant, en se rassurant que cette personne parte dans une église qui croit au message du salut, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, que cette personne continue à croître. Si nous comprenons ces choses, il n'y aura plus, bien-aimé, de débats ou encore de guerres entre églises. Oh non, mes âmes, qui sont tes âmes? Quelles sont tes âmes? Ce ne sont pas tes âmes, ce sont les âmes de Jésus-Christ. Nous gagnons les âmes pour Christ, nous ne gagnons pas les âmes pour l'église. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des conflits. Oh non, il a volé mes âmes. Oh, que ce ne sont pas tes âmes. On gagne les âmes pour le Seigneur. Et lorsqu'on sonne de cette trompette, la première trompette servait à conduire les gens à être en Christ. La tente d'assignation, être en Christ. Et ensuite, c'est ceux qui ont écouté la première trompette. Je veux dire que la première trompette, c'est le son que donnent bien-aimés les cinq ministères. Le ministère du docteur, apôtre, prophète, pasteur et évangéliste. Ça, c'est la première trompette. Mais ce que j'aime ici, bien-aimé, au verset 7, on dit, lorsque vous sonnerez pour convoquer l'assemblée, c'est-à-dire la première trompette, vous ne sonnerez pas avec éclat. Ah, vous comprenez pourquoi? Le véritable évangile, bien-aimé, on ne le fait pas sonner avec éclat. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura une fin. Mais la fin, bien-aimé, la soif de la parole. Les gens bien-aimés ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se formeront une foule de docteurs. Il est écrit, bien-aimé, dans les derniers jours, les hommes se détourneront de la foi authentique. et s'attacheront, bien-aimés, aux doctrines inspirées par des démons. C'est une réalité aujourd'hui, bien-aimés. Et la Bible dit plusieurs, une grande foule, bien-aimés, vont aller vers ces gens-là. Et ne vous étonnez pas, on dit par rapport à la fin des temps, qu'il y aura des faux prophètes et plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Donc nous ne sommes pas surpris lorsque nous voyons de telles choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est afin de nous préparer pour le retour de Christ. Car elle a dit, quand vous voyez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc la première trompette est sonnée par les cinq ministères. Mais les cinq ministères présentent quoi? L'évangile. Hein? Il ne suffit pas seulement de prêcher, mais il faut prêcher l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1er au verset 4, l'apôtre Paul a défini ce que c'est l'évangile. Il dit l'évangile que moi j'ai reçu, que je vous ai proclamé, que vous avez entendu, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Il dit, mais si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. L'apôtre Paul a plusieurs fois parlé de ces choses. Il dit par exemple dans Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 9, il dit, je m'étonne de ce que vous vous détournez si vite de celui que vous appelez, comme s'il y avait un autre évangile. Il dit, je vous rappelle qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Après, au verset 9 et 10, il dit, même moi, si je viens vers vous avec un autre évangile, ou si même un ange descend du ciel, parce que les gens aiment bien aimer ces choses, ces manifestations spirituelles, hein, tout ce qui concerne l'émotion. Oh non, j'ai reçu de Dieu. Vous avez écouté, vous avez entendu le parler en langue. J'ai reçu ça venant de Dieu. J'ai vu une vision. Ok, il dit, même si c'est un ange qui descend dans la puissance pour vous annoncer une autre chose que nous avons annoncée, qu'il soit anathème. Donc, bien aimé, c'est sérieux ces choses. Donc, l'évangile, il a défini l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, en disant que l'évangile est subdivisé en trois groupes. Ou encore, il y a trois éléments nécessaires qui composent l'évangile. Il dit, premièrement, Christ est mort pour vos péchés. Deuxièmement, il a été enseveli. Troisièmement, il est ressuscité des morts. Et cela, bien aimé, nous concerne. Quand on parle de la mort de Christ, nous parlons de notre propre mort. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. C'est ça l'évangile. Donc l'évangile qui ne présente pas la croix, ce n'est pas l'évangile. Deuxièmement, il a été enseveli. Enseveli signifie quoi? Être enseveli signifie dépendre totalement de Dieu, se laisser être conduit par Dieu, laisser sa vie entre les mains de Dieu comme un sacrifice vivant. Sans mettre de côté quelque chose. Vivre totalement pour Dieu. Ensuite, troisièmement, il a été ressuscité. Cela parle d'une nouveauté de vie. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'évangile de Christ parle aussi de la sanctification. Pas seulement intérieure, parce que les gens vont vous dire, non, Dieu ne voit que le cœur. Mais oui, l'extérieur est le reflet de ce qui est intérieur. Tu vois quelqu'un s'habiller en laissant les parties intimes dehors, s'habiller bien-aimé. Comme un fou, il va vous dire, non, 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 Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Mais il oublie que son extérieur, c'est ça même son intérieur qui est manifesté. Parce que la Bible dit, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Faisons très attention. Avec l'évangile dit de la prospérité aujourd'hui, qui enseigne aux chrétiens à seulement devenir riche selon la chair, selon l'homme, mais non selon Dieu. La Bible dit, cherchez les trésors d'en haut. Travaillez pour les trésors d'en haut, où la rouille ne peut détruire, ni le voleur ne peut voler. C'est ça l'évangile. Donc, bien aimé, si tu n'as pas écouté le son de la première trompette, tu ne pourras pas écouter le son de la deuxième trompette. C'est ceux qui avaient écouté le son de la première trompette qui étaient rentrés dans l'arche de Noé. Vous savez que Noé, la Bible dit, tel que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Cela, bien aimé, se trouve déjà dans l'arche de Noé. Donc, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui a accepté le salut, qui marche dans la sainteté, cette personne-là, étant physiquement sur terre, mais spirituellement, il se trouve déjà dans l'arche de Noé. Mais il y aura un jour où la deuxième trompette va sonner, et quand cette trompette va sonner, bien-aimé dans le Seigneur, le bateau bien-aimé sera fermé. Et finalement, lorsque le bateau sera fermé, finalement, c'est ce que nous, c'est ce que nous connaissons, nous parlons de, c'est ce que nous, c'est ce que nous, c'est ce dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il parle de l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, c'est très important. Alors, qu'est-ce que la fête des trompettes annonce prophétiquement? Je vais rapidement prendre ça ici. La fête des trompettes annonce prophétiquement le rassemblement des Hébreux sur la terre d'Israël. Parce qu'on dit dans Matthieu chapitre 24, verset 32, qu'il rassemblera tous ses élus et le Seigneur Jésus va donner la parabole du figuier en disant, lorsque vous verrez les feuilles de figuier commencer à redevenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Or, Israël est devenu une nation depuis 1948. Et il y avait comme une sorte, bien-aimée, d'interpellation ou de raisonnement, bien-aimé, de trompette, lorsque le peuple d'Israël avait compris qu'il fallait regagner leur terre. Mais c'était, bien-aimé, une trompette qu'on ne pouvait pas écouter. Dieu a mis ce peuple dans l'épreuve. Il a permis que ce peuple regagne, bien-aimé, Israël, parce que l'Israël doit devenir la capitale du monde. Il a permis que ces gens passent par l'Holocauste, par exemple en Allemagne, lorsque Hitler a tué plus de 6 millions de Juifs. Toutes ces choses bien-aimées. Nous voyons par exemple la prophétie, je crois que c'est dans Zacharie. Il dit, je vous enverrai les prophètes. Il a envoyé les prophètes pour leur faire revenir. Ils n'ont pas accepté. Il dit, cette fois-ci, je vous enverrai les chasseurs. C'est-à-dire, par la souffrance, par les difficultés, ils seront obligés de revenir. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Israël est devenu comme le centre. Et lorsque nous voyons, par exemple, que la capitale quitte Tel Aviv pour aller à Jérusalem, je bénis le Seigneur pour ce que Trump a fait, sa décision. La capitale quittait Tel Aviv pour aller à Jérusalem, bien-aimés, cela, c'est une grande interpellation pour nous. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, il le fera littéralement. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera littéralement. Même si tu ne vois pas encore, ne te dis pas comment cela va se faire. Marie avait raison de demander à l'ange comment cela se fera-t-il, parce que Marie n'avait jamais vu ça. Mais Jean-Baptiste avait lu l'histoire de Sarah qui avait conçu dans sa vieillesse et Abraham. Voilà pourquoi. Et pas Jean-Baptiste, plutôt Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi l'ange ferma sa bouche. Donc, ne te dis pas comment ça va se faire, mais dis-toi simplement que celui qui a fait la promesse est fidèle et cela va arriver. Troisièmement, non, plutôt je parlais du rassemblement des Hébreux sur leur terre. Deuxièmement, prophétiquement, le son de la trompette ou la fête des trompettes représente le rassemblement des saints dans les nuées. Hein, ce que je venais de dire tout à l'heure, lorsque. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, bon, lisons ça, c'est toujours important. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 au verset 17. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans lire ce passage. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 15 aussi, l'apôtre Paul parle de ça. Ok, 1 Corinthiens chapitre, non, 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés, la trompette aussi va sonner. Mais cette trompette va marquer l'enlèvement de l'Église. Et l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 15, hein, les derniers versets, vers les versets 50 là-bas. Il dit, ça sera comme en un clin d'œil. Les morts ressusciteront premièrement. Hein, il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais nous serons changés. Qu'est-ce qui va se passer? En un clin d'œil, les morts en Christ resteront premièrement, et avec eux, nous serons changés. Nous allons porter ce corps de gloire pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, nous sommes le corps. Christ qui est la tête va se positionner dans les airs afin que le corps puisse monter pour s'attacher à Christ. De telle sorte que lorsqu'il fera son entrée à Jérusalem, la Bible dit, il fera son entrée avec ses saints. C'est-à-dire le corps sera complet. Et nous allons rentrer bien-aimés dans Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est une réalité, ces choses. Ces choses sont des réalités. Voilà pourquoi nous devons croire en cela, déclarer cela et vivre bien-aimés pour ces choses. L'enlèvement, c'est une réalité. Mais nous devons être prêts. C'est ça le problème. C'est une chose de savoir qu'il y aura l'enlèvement, mais c'en est une autre d'être prêt. Nous devons être prêts tout le temps, laver tout le temps nos robes, c'est-à-dire nos œuvres, marcher dans la sanctification tout le temps. Parce que, bien-aimé, si la mort te frappe aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que nous vivons, que nous mourrons, mais que nous soyons en Christ. Que la mort te trouve en Christ. Parce qu'un jour, lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Et les morts en Christ, c'est un peu comme le champ de Macpéla. Bien-aimé, n'essaie pas d'être enterré ailleurs que dans le champ de Macpéla. Le champ de Macpéla, c'est le champ qu'Abraham avait acheté pour faire, bien-aimé, ses enterrements. Et lorsque Jacob était sur le point, bien-aimé, de mourir, il a demandé à ses enfants, il a dit surtout à Joseph, fais-moi un vœu que lorsque je vais mourir, que mon corps ne sera pas enterré en Égypte, mais plutôt mon corps sera enterré dans le champ qu'Abraham avait acheté. Parce que c'est là-bas que Abraham fut enterré avec sa femme. C'est là-bas que Isaac, mon père, fut enterré avec sa femme. Et moi, c'est là-bas que j'ai enterré Léa. C'est là-bas que vous allez aussi m'enterrer. Et bien-aimés, ils avaient respecté cette promesse. Qu'est-ce que je veux dire? Frère, ne meurs pas en Égypte. Qu'on ne t'enterre pas en Égypte. Je vais dire ceci. Ne meurs pas sans Christ ou ne meurs pas dans le péché. Mais meurs, bien-aimé, étant en Christ dans la sainteté. De telle sorte que lorsque tu seras enterré, bien que ton corps va devenir poussière, mais ton âme, ton esprit sera bien-aimé auprès de Dieu, mais ton âme sera bien-aimée dans le sein d'Abraham. Ah, vous comprenez maintenant l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Les deux étaient morts. Le riche fut enseveli, mais le pauvre fut emmené par les anges dans le sein d'Abraham. C'est le lieu de repos. Tous ceux qui meurent en Christ se reposent là-bas. Bien-aimés, c'est très important. Donc voilà pourquoi nous devons nous préparer pour le rassemblement. Et ensuite, le son, prophétiquement, le son de la trompette annoncera le rassemblement de tous les élus de la grande tribulation qui viendront des quatre coins de la terre. Hein, pour ça, je vais prendre le livre d'Apocalypse. D'abord, non, de Matthieu, Matthieu 24, verset 31. C'est aussi annoncé dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimé, c'est très important. Pourquoi, bien-aimé, annoncer, faire retentir la trompette? Nous voyons ici, pour la chute, pour faire tomber le mur de Jéricho, bien-aimé, on avait demandé, selon l'orientation du Seigneur, à ces gens de faire retentir des trompettes. Et ils ont fait 6 tours. Pendant ces 6 tours, ces gens ne faisaient que faire retentir la trompette. Et finalement, au 7e tour, la Bible dit, le mur s'écroula. On va lire rapidement. Dans Josué chapitre 6, du verset 8 au verset 10, la Bible dit ceci. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance et l'Éternel allaient derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs et sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il sortira par un mot de votre bouche. Il dit, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez les cris. Alors vous pousserez les cris. Bien-aimés, voilà l'orientation que Josué avait donnée. Tout ce qui devait faire entendre, bien-aimé, c'était le son des trompettes. Pas votre voix, mais le son de la parole. Nous comprenons par là que lorsque Dieu visita Josué, il dit, mon fils, plutôt mon serviteur Moïse est mort, mais toi prends courage. Après, quelque part, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. J'allais penser que Dieu allait dire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, parce que c'est avec les yeux qu'on lit. Mais dit de ta bouche, cela signifie qu'on doit la proclamer, on doit proclamer, bien-aimé, les paroles de ce livre. Continue à proclamer. Dit, tu médites le jour et nuit, c'est-à-dire, quand tout va bien la nuit, tu proclames la parole. Quand tout va mal, proclame la parole. Ne cesse pas de faire retentir la trompette. Parce que dans certains cas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque tu vas apprendre à proclamer ce que la parole de Dieu dit, que bien-aimé, ce qui est bloqué. Parce que quand vous lisez l'histoire de Jéricho, on dit que Jéricho était une ville qui était barricadée et il y avait un grand mur. Les historiens disent que c'était un mur, bien-aimé, qui avait plus de 5 mètres de profondeur. Non, de 2 mètres de profondeur, mais qui s'éleva peut-être de 6 à 8 mètres de hauteur. Et son épaisseur était autour de 3,5 mètres. Bien-aimé, donc c'était un grand mur, c'était barricadé. Les enfants d'Israël ne savaient quoi, comment procéder. Mais Dieu va dire, prenez simplement des trompettes. Vous ferez sonner des trompettes. Et c'est comme ça que je veux faire tomber ce mur. La trompette, bien-aimé, comme je disais, c'est la parole de Dieu. Continue à proclamer la parole, vis la louange, déclare la parole, même quand tout va mal, même quand physiquement tu vois que les choses ne vont pas telles que toi tu penses ou telles que Dieu te l'avait déclaré. Proclame la parole, déclare la parole et tu verras, bien-aimé, la gloire de Dieu. Plusieurs personnes proclament la parole quand tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, ces personnes cessent de proclamer. On doit continuer à proclamer la parole. Continuer à déclarer ce que Dieu a déclaré, même quand nos yeux physiques voient le contraire. Pourquoi bien aimé proclamer, faire sonner la trompette, comme je disais, pour faire tomber le mur de Jéricho? Pourquoi faire sonner la trompette? Pour gagner les âmes. Et en fait, bien aimé dans le Seigneur, qui peut faire sonner la trompette? C'est là le problème. Je juge maintenant. Nous allons voir ici. Qui peut faire sonner la trompette? Juge chapitre 7, je dirais du verset 15 au verset 19. Juge 7, 15 à 19, la Bible dit, lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et les cruches vides avec des flambeaux dans la cruche. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Et il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et ses hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Amen. Bien-aimés, nous constatons ici que d'abord ce corps était composé de 300 soldats. Quels sont ces 300 soldats? En fait, ces 300 soldats, c'est le reste que Dieu a tiré de 22 000 soldats. Ils étaient au nombre de 22 000. Mais Dieu va dire à ce peuple, si vous partez combattre ce peuple avec ce nombre, vous risquerez de vous enorgueillir et de penser que vous avez remporté des victoires parce que vous êtes nombreux. Alors Gédéon fait entendre au peuple cette voix, que celui qui est craintif, qui retourne chez lui à la maison. Bien-aimés, ce même jour, 12 000 sont partis. Ils sont restés au nombre de 10 000. Dieu dit, vous êtes toujours nombreux. Je sais que parmi vous, il y a des gens que je dois déconnecter, je dois enlever. Il dit, descends vers l'eau. Ah, voilà. Le test descend vers l'eau. Et là, quand ils vont voir l'eau, comme ils ont soif, tu verras la façon dont ces gens vont boire. Ceux qui vont boire avec beaucoup de prudence, ceux-là, tu les mettras des côtés. Et la Bible dit, quand ils sont partis vers l'eau, il y a eu 9 700 qui sont allés, bien-aimés, s'agenouiller devant l'eau pour boire. Mais il n'y a eu que 300 qui prenaient l'eau, qui ont mené dans la bouche avec beaucoup de prudence. Et Dieu va dire, c'est avec ces 300 soldats que je vais remporter les victoires. Bien-aimés, nous serons confrontés à cela et Dieu va nous tester toujours par l'eau. Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, ce sont des langues et les nations. Donc l'eau ici, c'est l'image du monde. Ce sont des opportunités à la richesse matérielle. Dieu va nous tester avec ces choses. Est-ce que nous allons utiliser cela avec beaucoup de prudence? Où nous allons fléchir nos genoux. Beaucoup de gens qui avaient bien commencé avec le Seigneur, mais qui ont abandonné. Ils pensent ne pas abandonner parce qu'ils continuent avec les activités religieuses, mais ils ont déjà fléchi les genoux devant l'argent, devant les biens matériels. mais ils pensent qu'ils sont toujours en Dieu, ou ils marchent toujours bien-aimés avec Dieu. Alors que Dieu les a déjà mis de côté pour utiliser ces 300 qui sont capables de dire que Dieu sera toujours mon serviteur et jamais mon maître. C'est avec ces 300. Et la Bible dit, ces 300 avaient des cruches. Et ces cruches-là étaient fabriquées, faites à base de terre. Et ce que j'aime, dans des cruches, il y avait des flambeaux. Or, quand nous voyons la cruche et les flambeaux, ou encore des vases et des flambeaux, nous comprenons mieux ce que Paul a dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans le vase de terre. Donc la cruche ici, c'est l'image de l'homme. Le flambeau, bien-aimé, c'est l'image de l'esprit. Mais pour que, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions aller au combat, nous devons apprendre à casser la cruche. Et casser, bien-aimé, la cruche ici, c'est l'image du brisement. C'est l'image du brisement. C'est lorsque nous sommes brisés que l'esprit en nous peut se manifester. Mais si nous sommes orgueilleux, l'esprit ne pourra pas se manifester. Et c'est ceux qui avaient des cruches, qui avaient brisé des cruches, qui étaient capables, bien-aimés, d'annoncer, qui étaient capables de faire sonner de la trompette. Aujourd'hui, bien-aimés, l'évangile est stoppé et quelquefois ne pas être entendu. Parce que ceux qui sonnent de la cruche, quelquefois, ceux qui sonnent la trompette, quelquefois, n'ont pas encore brisé la cruche. C'est quand nous brisons les cruches, car Jésus à la croix, il a déchiré, la Bible dit, c'est le déchirement de son cœur, de son corps. Le voile de son corps a été déchiré afin de nous donner l'accès pour aller vers le Père. Et si nous voulons être auprès du Père, si nous voulons expérimenter le Père et annoncer l'évangile, annoncer, faire retentir des trompettes, bien-aimés, nous devons d'abord passer par le brisement. Jésus, avant d'envoyer ses disciples, il devait d'abord les briser. Voilà pourquoi là-bas, dans Josué, vous avez appris ce que Josué disait à ses hommes. Il dit, vous ne ferez pas entendre votre voix, mais vous ne ferez que faire sonner de la trompette. Ça veut dire quoi? On ne va pas à l'évangile, bien-aimé, avec la voix des hommes, dire ce que nous pensons, dire ce qui se dit dans la nature, dans la société. Mais nous devons, bien-aimé, faire sonner que la trompette. On fait sonner la trompette, on ne dit pas ce que nous pensons, parce que ce que moi je pense peut être tout faux, mais ce que Dieu pense, c'est ce qui est vrai, car c'est Dieu qui connaît les cœurs. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu l'enseignement sur la fête des trompettes. Il ne s'agit pas d'une célébration d'un mois donné, hein, comme chez nous, certains mois, comme c'est le septième mois, certains mois prennent le mois de juillet pour célébrer la fête des trompettes, mais bien-aimé, c'est toute une vie. Notre vie d'adoration, de louange de tout le temps, de partage de l'évangile. Et bien aimé, un jour, la trompette va sonner pour notre enlèvement. Ne rate pas, bien aimé, cet événement. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons avec la fête des expiations prochainement, si le Seigneur le permet. Amen.